bonjour à tous les auditeurs de Radio Théolis. Je suis Vincent Lequen et je suis tout à fait ravi de commencer ma première émission avec vous sur votre radio préférée et ainsi rejoindre la cohorte de tous les animateurs réguliers de Radio Théolis qui vous sont désormais, j'imagine, familiers. J'habite en France, en région parisienne, et je suis un passionné de beaucoup de choses. D'aucuns diraient que je suis un peu hyperactif. Ça n'est pas forcément impossible, mais tout ça produit beaucoup de plaisir, parce que la passion, c'est le plaisir. Et donc, moi, je suis un passionné de musique, de littérature, d'actualité. J'ai découvert aussi l'Afrique grâce à des amis il y a plusieurs années. Ils se reconnaîtront. Et plus globalement, toutes les affaires du monde m'intéressent et me passionnent depuis mon plus jeune âge. Et c'est à ce titre que je remercie la direction de Radio Théolis pour son invitation à animer ce créneau d'émission, désormais qui sera consacré à la géopolitique. Je vais tout vous expliquer dans un instant, une fois les présentations achevées. Parmi les nombreuses activités que j'essaie de mener au quotidien, il y a une activité qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'enseignement. Cela fait plus d'une vingtaine d'années désormais que j'enseigne à l'Université Paris-Dauphine, sur des sujets qui n'ont strictement rien à voir avec la géopolitique, puisqu'il s'agit de sujets autour de l'économie de la santé, qui est ma première expertise professionnelle depuis les débuts de ma vie professionnelle il y a plus de 30 ans, largement plus de 30 ans d'ailleurs. Mais j'enseigne également, et c'est là que ça se rapproche un peu plus de la problématique géopolitique, dans une excellente école de commerce, ou appelée également Business School, qui s'appelle l'EM comme école de management Normandie. Et comme toutes les grandes écoles de commerce, l'EM Normandie d'ailleurs possède plusieurs implémentations, parmi lesquelles Paris, Oxford, Dublin, Dubaï ou encore Caen et Le Havre en Normandie. Tout ça pour dire que nous serons internationaux dans cette émission et pas locaux, pas nationalistes, pas... Voilà, nous traiterons tous les sujets et je vais à nouveau y revenir dans quelques instants. Je précise juste que dans cette grande école de commerce, j'enseigne plusieurs matières actuellement, dont la géopolitique. Et d'ailleurs, avec mes actuels élèves, qui sont d'origine tout à fait diverse de par le monde, on va y retrouver des Européens, des Philippins, des Mexicains, des Américains, etc. Des gens qui viennent d'un petit peu partout, et qui sont actuellement en troisième ou quatrième année de leur cursus. Et avec eux, nous avons organisé un certain nombre d'interviews sur des sujets divers et variés de la géopolitique. Et ces interviews feront l'objet des prochaines émissions que nous aurons le plaisir de vous présenter. Mais revenons tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, avec, vous verrez, un premier sujet que nous aborderons très vite, brûlant d'actualité. Revenons d'abord aux objectifs et aux lignes de conduite de notre émission. Notre ligne de conduite, justement, sera d'évoquer tous les sujets de géopolitique qui nous sembleront pertinents. Et évidemment, tout le monde sait que le monde actuel n'en manque pas. Que ce soit des sujets d'actualité imprévus, par exemple un nouveau conflit qui éclaterait soudainement, ou un sujet quelconque qui arriverait brutalement dans l'actualité, mais aussi des sujets d'actualité ayant pris leurs racines dans le passé, par exemple les problèmes de climat ou de guerre économique qui ne sont pas nouveaux mais qui sont quotidiens. Mais rien ne nous empêchera aussi de traiter de sujets du passé, parce que ceci éclaire souvent notre situation actuelle, mais nous aide à comprendre ce qui peut nous arriver dans le futur. Évidemment, nous évoquerons des sujets plus proches de l'Afrique, parce que c'est la nature de Radio Théolis, et plus encore de l'Afrique francophone, mais pas uniquement. C'est important de bien le comprendre. Nous traiterons de tout sujet qui nous viendrait en tête. Et ceci nous fait notre ligne de conduite, à savoir la liberté la plus totale sur le choix des sujets, avec pour principal critère notre propre envie de les traiter, et j'allais dire encore plus votre envie de voir traiter de certains sujets qui vous tiennent à cœur et que vous ne manquerez pas de nous faire savoir par l'intermédiaire des médias sociaux de Radio Théolis qui nous permettront de dialoguer les uns avec les autres. Une petite précision importante toutefois sur le contenu de notre émission. Et cette règle que je vais édicter, c'est la même que celle que j'impose à mes élèves en cours de géopolitique, c'est-à-dire de bien se cantonner dans l'analyse des problématiques géopolitiques par opposition à l'opinion. Il s'agit bien de comprendre les sujets de l'actualité, par exemple, et pas d'offrir un porte-parole à des personnes qui voudraient émettre une opinion, encore plus lorsqu'elle est polémique. Ça n'est pas du tout l'objet de cette émission. Peut-être que d'autres émissions sur Radio Théolis auront cette ligne de conduite, cette ligne directrice, mais nous, nous resterons dans l'analyse. C'est ma proposition. Évidemment, il y a un pas très court entre l'analyse et l'opinion, parce que il faut bien admettre que l'analyse peut être porteuse de subjectivité et donc à ce titre flirter parfois avec l'opinion. Mais ce sera à moi, l'animateur, d'être garant et le modérateur des personnes interrogées pour que lorsque l'opinion prendrait le pas sur l'analyse, que nous remettions dans le droit chemin nos interlocuteurs. Maintenant que j'ai posé les bases de notre mode de fonctionnement, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Et pour commencer, je vous propose d'aller sur un sujet bien précis, je vous propose de bien définir ce que c'est que la géopolitique. Historiquement, dans les écoles, les collèges, les lycées, on enseignait l'histoire-géographie. Mais l'on voit depuis quelques temps, et c'est le cas par exemple dans les lycées en France, les cours d'histoire-géographie ont été transformés en cours de géopolitique. C'est déjà un premier constat fort sur l'importance que prend la géopolitique actuellement. Alors, quand on recherche ici ou là une définition de la géopolitique, on se rend bien compte que chacun a la sienne et qu'on en trouve pléthore sur les réseaux, sur Internet. Du coup, il faut bien en retenir une et puis s'y tenir, et je vous propose la mienne. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, Dieu. La géopolitique est une discipline qui étudie les relations entre les États et les facteurs qui les influencent, tels que la géographie, la démographie, l'économie, la culture et la technologie. Et on pourrait en trouver d'autres, j'imagine. La géopolitique, elle vise à comprendre comment ces facteurs expliquent les comportements et les stratégies des États et en tirer des conclusions sur l'évolution des relations internationales. On voit très vite que le champ de la géopolitique est très large, ce qui ne fera que de nous donner un grand nombre d'opportunités de sujets à traiter. Si on veut aller un petit peu plus loin dans la définition, avant d'être encore une fois dans la réalité, on peut diviser simplement la géopolitique en deux branches. La première, qui serait la géopolitique classique, qui s'intéresse aux relations entre les États dans un contexte international. Elle est souvent associée à des concepts tels que la puissance, l'équilibre des pouvoirs et la sécurité nationale. Ensuite, la deuxième branche, qu'on pourrait appeler la géopolitique contemporaine, et qui s'intéresse aux relations entre les États dans un contexte global. Elle est souvent associée à des concepts tels que la mondialisation, la gouvernance mondiale et le développement durable, pour ne citer que quelques exemples. La géopolitique est une discipline importante pour comprendre les relations internationales, et ça va être notre objectif. Elle permet de mieux comprendre les causes des conflits, les opportunités de coopération et les évolutions à venir du monde. Cette phrase est importante car au fond, elle résume parfaitement ce qui sera notre ambition pendant cette émission. Pour en terminer avec la définition et un peu la théorie et la compréhension de ce qu'est la géopolitique, voici quelques exemples de questions que la géopolitique peut aider à répondre. Ce sont des exemples assez convenus, vous en conviendrez. Pourquoi les États-Unis et la Russie sont-ils en rivalité ? Comment la Chine va-t-elle influencer l'ordre mondial ? Et enfin, comment les changements climatiques vont-ils affecter les relations internationales ? Voilà, j'en ai fini avec la partie un peu théorique, un peu de présentation de l'émission. Et pour poursuivre et commencer à ouvrir le grand livre de la géopolitique, je voulais vous proposer une petite analyse d'un article très récent. Donc ce n'est pas une volonté de commencer par ce sujet-là, c'est que... Il y a l'opportunité de la lecture de cet article qui est paru dans Le Monde Afrique du 9 novembre 2023. On peut retrouver ça sur lemonde.fr. C'est un article qui s'intitule « Les Africains craignent de n'avoir pas leur mot à dire au moment où se réécrivent les règles du jeu d'une mondialisation en crise ». Le titre est assez long et résume donc assez facilement le sujet de l'article. Et dans cet article, l'auteur évoque les difficultés logiques, au fond, de se développer économiquement pendant des périodes de tensions géopolitiques telles que nous les connaissons actuellement. Et que nous les connaissons actuellement et depuis déjà un certain temps. On pourrait remonter à très loin, mais sans remonter à très loin, ce qui nous reste en mémoire, c'est par exemple le contre-choc pétrolier, la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine évidemment. Le dérèglement climatique est un sujet qui est de plus en plus prégnant. Et on peut même ajouter encore plus récemment le conflit israélo-palestinien qui, plus que jamais, vient de renaître de ses cendres les plus noires. Évidemment, les pays en voie de développement, dont font partie de nombreux pays africains, sont souvent les premières victimes de cette situation. À cet égard... l'auteur cite deux experts qui disent à peu près la même chose, chacun de leur côté. Le premier expert, il s'exprime et fait partie de la Banque mondiale, et l'autre est un économiste de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, l'UNECA. Et ces deux experts se rejoignent sur le concept d'une décennie perdue en matière de croissance pour l'Afrique. À cause de tous ces événements géopolitiques. Bon, il est évident qu'on aurait pu dire, et d'ailleurs l'auteur le mentionne en tête de son article, que déjà dans les années 80 et 90, on disait la même chose, sur la base d'autres événements économiques, plutôt d'ailleurs que géopolitiques, il s'agissait plutôt des crises bancaires et des crises économiques, ou la crise de l'euro. Au-delà de ces conséquences géopolitiques, de ces événements géopolitiques, l'article évoque également les conséquences de la situation économique actuelle, complexe, en particulier au regard de la hausse des taux d'intérêt. S'il est évident que tous les pays du monde doivent affronter et composer avec les méfaits de taux d'intérêt élevés, les pays émergents économiquement sont encore plus tributaires et victimes au sens d'une forme de double peine, en fait. D'une part, le coût des emprunts financiers qui s'accroît fortement pendant du fait de la hausse des taux, et bien entendu, beaucoup de pays émergents sont obligés d'emprunter, donc sont victimes directement. Et ça les met donc du coup cette situation dans des positions de quasi-faillite. Et d'autre part, la deuxième partie de la double peine, et d'autre part, une coopération internationale en baisse, car évidemment tous les États, y compris les plus riches, doivent revoir leur niveau de dépenses financières. Et bien évidemment, de nombreux pays africains sont concernés par cette double difficulté. Mais ce qui est au fond le sujet central de cet article qui m'a paru comme, encore une fois, assez intéressant, c'est que face à tous ces désordres, les pays africains, plus que jamais, souhaitent avoir leur mot à dire, peser sur les conflits, peser sur les décisions du monde aussi, plutôt que de devoir les subir le plus souvent négativement, comme on vient de le voir. On l'a vu d'ailleurs ces dernières années, derniers mois, au travers de votes à l'ONU sur l'Ukraine, par exemple, ou d'autres conflits entre les grandes puissances où les pays émergents refusaient de prendre parti. Ou par exemple, un autre exemple, celui du rejet de la France dans certains pays, est aussi clairement un message d'indépendance. Tout ça concourt à analyser que de nombreux pays africains essayent de se développer et de développer une diplomatie plus indépendante que par le passé pour faire entendre leur voix dans le but, entre autres, de ne plus être, comme l'estime le FMI, la région du monde la plus gravement affectée par une fragmentation géo-économique. C'est un bon résumé de ce que l'on vient de dire. Des tracas géopolitiques ou économiques, il y en a beaucoup, on vient de le voir, mais il y en aura encore. Il faut être tout à fait lucide là-dessus. Et c'est quand même une problématique forte qu'à chaque fois, les pays émergents et africains, du coup, s'en trouvent directement et les principales victimes. Il y a un autre exemple, je trouve, très illustrant de cette problématique et qui est un des thèmes géopolitiques qu'on a cités tout à l'heure. C'est la problématique, ce sont toutes les obligations qui sont en train de naître en termes de transition énergétique, toutes les règles que peuvent émettre les pays riches le plus souvent. En effet, ces règles sont souvent édictées par les grandes puissances, et en particulier occidentales, et encore plus particulièrement, on pointe l'Europe dans cette situation qui à titre d'exemple de cette problématique, a mis au point une taxe carbone. Alors évidemment, tout le monde ne peut que se réjouir de l'établissement d'une taxe carbone et qu'on lutte contre le dérèglement climatique. Et les pays africains, évidemment, aussi savent qu'ils pourraient être les victimes de ce dérèglement climatique, aussi tout à fait. Et en Afrique, tout le monde, comme ailleurs, tout le monde comprend bien la problématique et la nécessité de faire quelque chose. Il n'en demeure pas moins que, pour prendre l'exemple de la taxe carbone, elle a une conséquence malheureuse aussi, c'est que elle favorise par nature une grande proximité entre la production de biens et la consommation. Et évidemment, ça se fait au détriment des importations, surtout les plus lointaines géographiquement, par essence. Et donc, pour l'Europe, ça concerne les produits qui proviennent d'Asie, mais également ceux qui proviennent des pays africains, même si l'Afrique est plus proche que l'Asie. Et donc, on entend beaucoup dans les pays africains, j'ai même moi-même entendu récemment, lors de mon dernier voyage, très récemment, la supplique suivante. Nous comprenons très bien que les enjeux de la transition énergétique dont nous sommes aussi nous-mêmes victimes, mais on redoute quand même aussi fortement les décisions qui pourraient être prises sans notre accord, sans notre avis, en tout cas, en termes d'impact sur nos économies émergentes. Ça, c'est un sujet sur lequel nous reviendrons immanquablement au cours des prochaines émissions, car elle est au cœur de la géopolitique africaine dans un monde très globalisé. Alors, j'imagine que beaucoup d'entre vous, auditeurs, régissez devant votre ordinateur ou devant votre smartphone ou tout autre outil avec lequel vous délectez de l'écoute de Radio Théolis, avez un avis sur ces questions, peut-être même un début de solution ou de commentaire à faire, et c'est tout l'intérêt aussi d'avoir, de récolter la pensée de chacun sur ces problématiques dont on ne manquera pas de, sur lesquelles on ne manquera pas de revenir dans le futur, dans un futur proche ou un peu plus, un peu moins proche, peu importe, ça sera selon les réflexions. Vous avez bien compris que là aussi, par exemple, en commentant un article de ce type, nous étions dans l'analyse, l'écoute, la prise d'informations, de connaissances, et non pas dans l'opinion. Je ne donne pas mon opinion sur le sujet, ce sera l'objet d'interviews d'experts qui viendront nous donner leur avis, peut-être au sens de l'analyse et des solutions possibles, plus que au sens de l'opinion, je le redis une nouvelle fois. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la présentation du concept de cette émission, que vous aurez désormais, que vous avez l'envie d'écouter les prochains épisodes, qui seront tous consacrés à des problématiques concrètes, qui ont toutes l'objectif de vous faire réagir ou de vous faire tout simplement apprendre sur beaucoup de sujets. Mais nous avons aussi à apprendre de vous, donc n'hésitez pas à poster, donner votre avis et éventuellement de participer en vue de participer à l'émission. Il n'y a aucun souci là-dessus et ça pourrait très bien se faire également. Les élections présidentielles taïwanaise en janvier 2024. C'est en effet un événement majeur de la géopolitique mondiale, pas uniquement sur la zone asiatique, évidemment. Elle peut avoir des retentissements très importants selon ce qui se passe, mais tout ça vous sera expliqué en détail et par des gens très compétents, puisque mes étudiants, ceux qui en tout cas qui ont traité ce sujet, sont issus de cette zone, sont taïwanais, chinois et philippins, et vous verrez qu'ils ont une compréhension du sujet très précise et une analyse très détaillé et nous allons apprendre beaucoup de choses ensemble. Et vous n'aurez pas longtemps à attendre pour constater le bien dit de ce que je viens d'exprimer, puisque nous allons, dans la deuxième partie de cette émission, traiter du sujet des élections taïwanaises, les élections présidentielles taïwanaises qui ont lieu dans les prochains jours et qui sont un enjeu géopolitique très important de cette zone géographique, mais pas que, mais également pour le reste du monde. Restez avec nous donc, ne quittez pas Radio Théolis, une petite pause et l'on se retrouve tout de suite pour traiter de ce sujet qui ne manquera pas de vous passionner. À tout de suite. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Théolis, de l'émission Le Monde tel qu'il est. Dans cette deuxième partie, nous allons aborder un tout autre thème que celui de la première partie. Je vous propose de nous arrêter avec l'aide de mes étudiants en géopolitique de l'école des management de l'EM Normandie, grande école de commerce française, et mes étudiants aujourd'hui se consacrent à vous parler d'un événement géopolitique très important qui va avoir lieu en janvier 2024, à savoir l'élection, une élection importante à Taïwan qui peut être déterminante pour le futur, la géopolitique future dans cette région du monde qui est assez instable, évidemment. Avant de laisser la parole à mes étudiants et à la problématique des élections, il est certainement intéressant de se rappeler quelques éléments historiques liés à la situation de Taïwan vis-à-vis de son grand voisin, la Chine, la République populaire de Chine. Sans remonter à fort loin, on peut démarrer au début du XXe siècle. À cette époque, l'île de Taïwan était une colonie du Japon. Mais après la guerre qui a opposé les Japonais et les Chinois à la, et à la suite de la Seconde Guerre mondiale, Taïwan est revenu sous le contrôle de la Chine nationaliste à l'époque que dirigeait le parti du Kuomintang dirigé par Chiang Kai-shek. S'en est suivi, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, la guerre civile chinoise qui opposait le Kuomintang et le Parti communiste chinois, guerre qui a éclaté en 1946, et qui a vu le Parti communiste chinois prendre le contrôle du continent chinois, emporter la guerre civile. Et ce qui a provoqué à partir de 1949 le recul des Chinois du Kuomintang vers Taïwan. Donc ils ont fui à Taïwan. Et donc la situation n'a pas évolué depuis lors, à savoir une République populaire de Chine qui ne reconnaît pas aucune autonomie à Taïwan, qui considère que c'est partie prenante de son territoire, à l'inverse de quoi les Taïwanais, eux, s'estiment autonomes et se sont mis sous la protection des États-Unis. Voici posés donc les éléments de compréhension de ce sujet autour de l'élection présidentielle taïwanaise qui aura lieu donc en janvier 2024. Je vais à présent vous faire lecture du travail que ont effectué mes trois étudiantes sur ce sujet. Et elles sont d'autant mieux placées que donc il s'agit de Margot qui est de nationalité philippine, de Rui Tong qui est de nationalité chinoise et de Wei qui est de nationalité taïwanaise. Évidemment, soit des deux pays impliqués dans ces difficultés et Philippines qui sont aussi à portée de qui sont aussi un pays de la région. Alors, présentation brève de l'élection, au-delà de ce que j'ai pu vous dire, Taïwan est une nation insulaire, démocratique et autonome située en Asie de l'Est. Son système politique se caractérise par une démocratie multipartite. Le paysage politique de Taïwan est fortement influencé par sa relation complexe avec la République populaire de Chine qui revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire, je vous ai déjà dit ça. La question de la souveraineté de Taïwan et des relations entre les deux rives du détroit est un thème central de la politique taïwanaise. Quelles sont les implications économiques, sociales et politiques de l'élection à Taïwan? D'un point de vue économique, Taïwan, nous devons le redire, est un acteur essentiel des chaînes d'approvisionnement mondiales, en particulier dans les industries de la technologie et des semi-conducteurs. Les élections qui entraînent des changements dans les politiques économiques et industrielles de Taïwan peuvent, du coup, affecter la résilience de la chaîne d'approvisionnement et le coût et la disponibilité de composants qui sont cruciaux pour de nombreuses industries mondiales, en particulier les grandes entreprises technologiques américaines, évidemment, mais pas que. L'issue des élections à Taïwan peut influencer l'approche du pays en matière d'accords commerciaux et de coopération économique internationale. Les dirigeants taïwanais peuvent chercher à forger ou à élargir leurs relations commerciales avec d'autres pays et régions, ce qui peut affecter la dynamique du commerce mondial. Par exemple, un président qui serait pro-commerce pourrait être plus enclin à négocier et à signer des accords commerciaux avec divers partenaires, ce qui pourrait potentiellement stimuler les échanges commerciaux et les opportunités commerciales. Cependant, leur relation avec la Chine est un facteur clé du commerce international. Les élections qui aboutissent à des dirigeants plaidant pour des liens plus étroits avec les États-Unis et d'autres pays peuvent affecter les tensions commerciales actuelles entre les États-Unis et la Chine, évidemment, qui sont sous-jacentes à cette élection. Les dirigeants taïwanais peuvent choisir de s'aligner sur un côté ou d'adopter une position plus neutre, ce qui peut avoir des conséquences pour les chaînes d'approvisionnement mondiales et les intérêts commerciaux. Voilà, ça c'était, on va dire, les implications économiques. Maintenant, en termes d'implications sociales, il faut dire que le progrès démocratique de Taïwan est une source de fierté pour de nombreux Taïwanais. Et il est vrai que ça n'est pas forcément le cas de tous les pays de la région. Et ils sont déterminés à défendre et à élargir les valeurs démocratiques. Les militants s'engagent souvent dans des mouvements pour protéger les droits de l'homme, la liberté d'expression et les libertés politiques. Ils ont accompli et continueront de faire des progrès significatifs sur les questions de justice sociale liées au droit du travail, sur la question de l'égalité des sexes, sur la question des droits des LGBT, et à la préservation aussi, sur la question de la préservation de l'environnement et du droit des autochtones. Lorsque les élections auront lieu en janvier prochain, ils seront donc très attentifs à ces facteurs dans les campagnes présidentielles. Enfin, au-delà donc des facteurs économiques et sociaux, l'impact politique, l'implication politique, évidemment, c'est que les élections présidentielles à Taïwan sont un symbole de son engagement envers les principes démocratiques. Elles permettent au peuple taïwanais d'exercer son droit de choisir son dirigeant et d'avoir son mot à dire dans la gouvernance de son pays. Ce processus renforce l'identité de Taïwan en tant qu'entité politique distincte. Enfin, les résultats des élections présidentielles à Taïwan peuvent avoir un impact significatif sur les relations entre les deux rives du détroit avec la Chine. La position d'un président sur des questions liées à la souveraineté de Taïwan, à son indépendance et à ses relations avec la Chine peut influencer le niveau de tension ou de coopération entre les deux parties. Un président qui serait plus favorable à l'indépendance pourrait entraîner une augmentation des tensions avec la République populaire de Chine, alors qu'un président plus conciliant pourrait chercher à vouloir maintenir la stabilité des relations entre les deux rives du détroit. Voilà, il fallait bien une longue introduction à cette problématique forte en enjeu qu'est l'élection présidentielle taïwanaise qui se déroulera donc, je le rappelle, en janvier 2024. À présent, je vais laisser la parole à mes trois étudiantes, Margot, la Philippine, Wei, la taïwanaise et Ruitong, la chinoise, qui vont être encore plus précises sur certains aspects, et leur témoignage est donc fortement intéressant de ce point de vue sur ce sujet. Hello Margot, Ruitong and Wei. You made an amazing job about Taiwan elections. Bonjour Margot, Ruitong, Wei. Vous êtes respectivement Margot de nationalité philippine, Ruitong de nationalité chinoise et Wei, vous êtes taïwanaise. Et donc vous venez toutes de régions très proches de Taïwan ou de Taïwan même. Et vous êtes à ce titre donc particulièrement informé au sujet des prochaines élections taïwanaises qui revêtent une importance géopolitique majeure pour cette région du monde, mais pour l'ensemble du monde, du coup. Voilà. La première question sera adressée à Wei. Pouvez-vous fournir, en tant que Taïwanaise, un bref aperçu de l'histoire politique de Taïwan et de son influence sur la perception des élections dans le pays ?
Taiwan's political history marked by periods of colonization, authoritarian rule, and a successful transition to democracy has deeply influenced the country's views.
L'histoire politique de Taïwan, marquée par des périodes de colonisation, de régimes autoritaires et de transition réussie vers la démocratie, a profondément influencé la perception des élections dans le pays, favorisant un sens aigu de la participation civique et et l'importance d'une gouvernance démocratique. Les élections présidentielles taïwanaises symbolisent la démocratie et l'autodétermination. C'est un symbole de son engagement envers les principes démocratiques. Elles permettent au peuple taïwanais d'exercer son droit de choisir son dirigeant et d'avoir son mot à dire dans la gouvernance de son pays. Ce processus renforce l'identité de Taïwan en tant qu'entité politique distincte.
Wei, thank you for your answer. Now, my second question will be how. La deuxième question est toujours pour Wei. Wei, comment les facteurs sociaux comme l'identité nationale et les mouvements sociaux ont-ils eu un impact sur les résultats politiques? Y a-t-il eu une évolution ou un changement notable de l'opinion publique concernant les facteurs politiques, sociaux et économiques mentionnés dans votre texte?
I think social factors have significantly impacted political outcomes in Taiwan.
Les facteurs sociaux ont eu un impact significatif sur les résultats politiques de Taïwan. L'identité nationale est un facteur crucial dans la politique taïwanaise. Le concept d'identité taïwanaise versus identité chinoise a été au centre des discussions. Il y a eu un changement graduel de l'opinion publique vers une identité taïwanaise plus forte, en particulier parmi les jeunes générations. Ce changement est largement dû à l'expérience historique distincte de Taïwan, à son développement culturel et à ses efforts pour se distinguer de la Chine continentale. Les partis politiques s'alignent souvent sur des visions différentes de l'identité nationale. Le Parti progressiste démocrate, PPP, plaignant pour une identité taïwanaise plus forte que le Kuomintang. Maintenant, une position plus ambiguë concernant les relations de Taïwan avec la Chine. Divers mouvements sociaux ont joué un rôle crucial dans le façonnement du paysage politique taïwanais. Par exemple, le mouvement Sunflower en 2014, mené principalement par de jeunes militants, a protesté contre un accord commercial avec la Chine et a plaidé pour une plus grande transparence dans l'élaboration des politiques. Ce mouvement a mis en évidence des préoccupations croissantes de la jeunesse concernant les relations de Taïwan avec la Chine et son impact sur la souveraineté taïwanaise. Les mouvements sociaux, comme ceux-ci, ont influencé le discours public et l'élaboration des politiques, contribuant à des changements dans les stratégies et les priorités politiques.
Now let's go to the question number three. Mettons que je m'adresse à vous pour la question numéro 3. Selon vous, comment les facteurs économiques jouent-ils un rôle dans les élections taïwanaises? Et la deuxième partie de ma question, quelles sont les principales politiques économiques qui ont été débattues ou mises en place par différents partis politiques ou différents candidats à l'élection taïwanaise?
Okay, well, economic factors always play a crucial.
Les facteurs économiques jouent toujours un rôle crucial dans les élections. En particulier, Taïwan a une économie robuste et orientée vers l'exportation. Les électeurs privilégient souvent les candidats et les partis politiques en fonction de leur capacité perçue à répondre aux problèmes économiques. Tout d'abord, les relations économiques transdétroit font l'objet de débats houleux. Le Kuomintang, KMT, a historiquement plaidé pour une intégration économique plus étroite avec la Chine, soulignant les avantages potentiels pour les entreprises et l'économie taïwanaise. En revanche, le Parti progressiste démocrate, DPP, a tendance à être plus prudent, se concentrant sur le maintien de l'indépendance économique et la réduction de la dépendance à l'égard du continent. Et aussi, les politiques industrielles sont également des facteurs économiques importants. Différents partis peuvent avoir des approches variées du développement industriel. Les politiques industrielles visent à renforcer la compétitivité et à stimuler la croissance économique dans certains secteurs spécifiques. Les candidats pourraient proposer des politiques pour soutenir et promouvoir des industries spécifiques telles que la technologie, l'innovation et l'énergie verte. De plus, Compte tenu de la réputation de Taïwan en tant que plaque tournante mondiale de la technologie, les candidats discutent souvent des politiques liées à l'innovation, la recherche et au développement et aux infrastructures technologiques. Ainsi, assurer la compétitivité du pays dans les technologies émergentes est un objectif clé. En outre, les questions liées au marché du travail, y compris les salaires, les conditions de travail et les droits des travailleurs, sont importantes. Les candidats peuvent proposer des mesures pour accompagner les possibilités d'emploi, protéger les travailleurs et réduire les inégalités de revenus. Enfin, les politiques fiscales, y compris les impôts sur les sociétés, les impôts sur le revenu des particuliers, font souvent l'objet de débats. Les candidats peuvent proposer des changements au système fiscal pour stimuler la croissance économique, attirer des investissements ou garantir une répartition équitable de la charge fiscale. Ainsi, tous ces facteurs économiques sont au cœur des débats et influenceront considérablement le résultat des élections.
Margot, you are coming from Philippines. This is the fourth question for you. In the context of Taiwan's 2024 elections, la quatrième question s'adresse à Marco, qui vient des Philippines. Dans le contexte des élections de 2024 à Taïwan, Marco, quels sont pour toi les enjeux politiques spécifiques qui sont susceptibles de susciter une grande attention de la part des électeurs et des candidats?
As mentioned by our group mates, Taiwan's relationship with China will gather a lot of attention, and citizens will focus on the candidates' positions on maintaining Taiwan's autonomy. And given that many countries,
comme l'ont mentionné nos camarades de groupe, la relation de Taïwan avec la Chine attirera beaucoup d'attention et les citoyens se concentreront sur les positions des candidats pour maintenir l'autonomie de Taïwan. Et étant donné que de nombreux pays se remettent encore de la pandémie, il est important que les politiques de croissance économique se concentrent sur la revitalisation des industries, la création d'emplois, le soutien aux petites entreprises et la garantie de la résilience économique. Les générations plus âgées se concentreront sur la manière dont ces politiques affectent les soins de la santé, les filets de sécurité sociale et d'autres systèmes de protection sociale. En attendant, les jeunes se concentreront sur la manière dont les politiques garantissent les salaires équitables et affectent leur stabilité professionnelle et l'accessibilité au logement. En outre, Taïwan est un des leaders de l'industrie technologique. Les gens se concentreront donc également sur la manière dont les candidats utiliseront les innovations actuelles pour aider à atténuer les problèmes urgents comme le changement climatique et garantir la cybersécurité. La justice sociale et les droits de l'homme seront également largement discutés, étant donné que les dirigeants choisis reflèteront les valeurs du pays. Les questions concernant la justice sociale, les droits de l'homme, l'égalité des sexes et les droits des minorités seront également soulignées.
So, Ritong, given Taiwan's complex relationship with China, of course, how might geopolitical factors impact the 2024 elections? Compte tenu de la relation complexe de Taïwan avec la Chine, qui n'est plus à expliquer, comment les facteurs géopolitiques pourraient-ils influencer les élections de 2024? Enfin, deuxième partie de la question, comment les positions des candidats sur la souveraineté de Taïwan et les relations trans-détroit façonnent-elles leur attrait électoral?
Well, the geopolitical factors, especially Taiwan's relationship with China, play a crucial role in shaping the political landscape and voter sentiments in Taiwan. The issue of Taiwan's sovereignty and
les facteurs géopolitiques, en particulier la relation de Taïwan avec la Chine, jouent un rôle crucial dans l'évolution du paysage politique et des sentiments des électeurs à Taïwan. La question de la souveraineté de Taïwan et des relations transdétroit est une question de longue date et sensible. Premièrement, les tensions transdétroit. Si les tensions entre Taïwan et la Chine s'intensifient, s'intensifie avant les élections de 2024, cela pourrait influencer la perception que les électeurs ont des candidats et des partis. Les électeurs pourraient privilégier les candidats qui, selon eux, peuvent gérer ces tensions efficacement sans compromettre les intérêts de Taïwan. Deuxièmement, la souveraineté et l'indépendance. Parmi les deux principaux partis, comme je l'ai mentionné précédemment, le Parti progressiste démocrate prône généralement l'autonomie de Taïwan et souligne son identité distincte de la Chine. En revanche, le Kuomintang a historiquement adopté une approche plus conciliante, recherchant les relations transétroites pacifiques et ne soutenant pas explicitement l'indépendance. Les positions des candidats sur ces questions peuvent fortement influencer le soutien des électeurs. En outre, le soutien international est également une préoccupation importante pour les électeurs. Les candidats qui sont perçus comme efficaces pour renforcer les liens diplomatiques de Taïwan et sa position internationale pourraient recueillir davantage de soutien de la part des électeurs qui privilégient une position mondiale solide pour Taïwan. Les positions des candidats sur la souveraineté de Taïwan et les relations transdétroites ont également des impacts économiques. Toute perturbation des relations transdétroites peut affecter le commerce, les investissements et la stabilité économique globale. Les candidats qui peuvent rassurer les électeurs sur leur capacité à relever les défis et à minimiser les impacts économiques négatifs peuvent gagner en attrait électoral. En résumé, les positions des candidats sur les questions liées à la souveraineté, aux relations transdétroites et à leur capacité à naviguer dans ces relations internationales complexes sont des déterminants clés de leur attrait électoral.
Question number 6 will be the last one. Margot, how was Taiwan's history of democratic governance influence voter turnout and political engagement of its citizens? C'est Margot qui répond à la dernière, à la sixième et dernière question. Margot, comment l'histoire de la gouvernance démocratique de Taïwan a-t-elle influencé le taux de participation électorale et l'engagement politique des citoyens? Deuxième partie de question. Y a-t-il des aspects uniques de la démocratie taïwanaise qui la distinguent des autres pays de la région?
So Taiwan was previously under an authoritarian regime, and their transition to a democratic government has contributed to
Taiwan était auparavant sous un régime autoritaire, et sa transition vers un gouvernement démocratique a contribué à un sens aigu du devoir civique et à une grande valeur pour les processus démocratiques. En raison de cela, il y a un taux de participation électorale constant de plus de 70%, reflétant un niveau élevé de participation politique. La démocratie taïwanaise se différencie également des autres pays de la région asiatique par sa valeur de la liberté des médias. Les organisations non gouvernementales, les groupes de défense et un paysage médiatique diversifié contribuent à un discours public robuste qui fournit des plateformes pour des voix et des opinions diverses. Ainsi, un exemple de cela est le mariage homosexuel à Taïwan, car ils sont les premiers des pays asiatiques à le faire grâce à un tel discours. Alors que Taïwan est confronté à des défis et continue d'évoluer, son engagement envers la gouvernance démocratique, la participation active des citoyens et sa préservation de la liberté le distinguent en tant que modèle démocratique notable dans la région asiatique. Le parcours démocratique du pays, d'un passé répressif à une société démocratique florissante, est une source d'inspiration pour les pays qui cherchent à établir et à maintenir la démocratie.
Eh bien, je crois que nous avons été très complets sur ce sujet des élections taïwanaises de janvier 2024 et de leurs conséquences en termes géopolitiques, ce qui est bien sûr au cœur de nos ambitions sur cette émission du monde tel qu'il est sur Radio Théolis. Nous aurons l'occasion de toute évidence de revenir sur ce sujet à l'issue de ces élections qui sont donc très proche de nous, et d'en mesurer les conséquences. D'ici là, je vous souhaite le meilleur. Merci d'avoir écouté cette émission du monde tel qu'il est. Et je n'espère qu'une chose, c'est vous retrouver pour la suite, les suites qui ne manqueront pas d'attirer votre intérêt, je l'espère. En tout cas, tout sera fait dans ce sens. C'était Vincent Lequen pour l'émission Le Monde tel qu'il est sur la géopolitique. Je remercie tout particulièrement Marie-Jo Louère, collègue et amie, qui a prêté sa magnifique voix au doublage sur les interviews. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Merci à vous, à très vite.